et on se retrouve samedi prochain. Salut, bye bye.
Faut vraiment décoloniser les imaginaires.
Liberté, égalité, fraternité. Liberté et fraternité ne sont pas possibles si le truc du milieu n'est pas fait. Tant qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté possible. Et tant qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité possible. L'égalité, j'ai envie de le garder. Égalité, diversité, solidarité. À partir du moment où vous avez des dirigeants qui décident à votre place, c'est fini, il n'y a plus de démocratie. Tant que vous avez des gens qui décident, qui sont copains avec des gens qui ont intérêt à ce qu'on continue à polluer, on va continuer à polluer. Tant qu'on a un État capitaliste au-dessus de nous, ça ne va pas s'arrêter.
Quand on parle d'innovation, on parle toujours d'innovation scientifique, mais on ne parle jamais d'innovation sociale, on ne parle jamais d'innovation socio-économique, alors que c'est là le champ de recherche le plus important qu'il y a à notre époque. L'innovation sociale est le nouveau champ de développement de l'homme. Pour moi, ce n'est pas l'innovation technologique qui va nous sauver, c'est l'innovation sociale et socio-économique. Mais il faut vraiment décoloniser les imaginaires.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à vous dans cette seconde émission consacrée à l'anthropocène. De anthropos, homme, et scène, nouveau. Ça fait quelques années que nous sommes sortis de l'holocène, une ère de réchauffement climatique naturel, démarrée il y a environ 10 000 ans et qui a permis l'apparition de l'agriculture. Mais ça, c'est fini. L'anthropocène, c'est l'ère dans laquelle nous sommes depuis peu. Depuis que les activités humaines ont eu une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. L'impact de l'activité de certains humains sur la planète devient notable à partir de la révolution industrielle, vers la moitié du 19e siècle. Impact encore plus flagrant à partir des années 40 avec le nucléaire, et encore plus à partir des années 60 avec les montagnes de déchets de la soi-disant société de consommation, surtout des pays riches. Nous appartenons à la première non-civilisation humaine basée sur le saccage et le gaspillage. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Notre espèce, Sapiens sapiens, est apparue il y a environ 300 000 ans. L'Anthropocène n'a que quelques dizaines d'années, une période très jeune, très courte et très brutale. Notre espèce n'aura mis que quelques années à saccager notre biotope. Au nom de quoi ? Alors c'est là qu'avec Anthropocène vient aussi le mot « capitalocène ». Car ce système qui pille et détruit notre environnement pour générer des profits à très court terme au bénéfice d'une minorité et au détriment de tout le monde, ça porte un nom. Ça s'appelle le système capitaliste. Donc, l'écologie est, par nature, anticapitaliste. On en parle à nouveau avec nos copains Val, chimiste de formation et consultant en environnement, et Gilles, biologiste. Salut Val.
Salut.
Salut Gilles.
Salut.
Mais au-delà de la technique, nos deux scientifiques vont aujourd'hui nous emmener dans les sciences humaines. Comment en finir avec le capitalocène ? Comment en finir avec le capitalisme pour préserver ce qui peut encore l'être ? Plus qu'une histoire technique, c'est un problème philosophique. Il est plus que temps d'en finir avec notre autodestruction. Car si ça continue comme ça, cette histoire d'humanité sera terminée vers 2100. Hein, et les derniers êtres humains, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants, risquent de pas beaucoup rigoler pendant leur agonie. La canicule perpétuelle arrive. Summer is coming. Nous sommes depuis quelques dizaines d'années dans l'ère de l'anthropocène et donc du capitalocène. Pour en sortir, l'écologie ne peut être qu'anticapitaliste et anticonsommation, la conso qui est la drogue dure du capitalisme. Or, moi le premier, je suis un toxico de cette consommation pourtant vilipendé dans cette émission. Je pollue en utilisant le téléphone portable qui nous a permis de prendre rendez-vous avec Val et Gilles. Un téléphone énergivore, plein de métaux rares, dont l'extraction a coûté la vie à d'autres êtres humains, tout comme ce magnétophone numérique qui enregistre notre conversation, ou comme l'ordinateur qui va permettre de fabriquer et de diffuser l'émission que vous êtes en train d'écouter vous-même sur des saloperies polluantes.
Quelque part, nous, occidentaux, bien vivants et contents de nous, on est un peu cocus. Cet état de choses, le dérèglement climatique, l'anthropocène ou le capitalocène. Capitalocène, c'est l'identification des acteurs socio-économiques qui ont entraîné cette situation, plutôt que anthropocène où on considérerait alors que c'est l'homme qui est responsable, c'est-à-dire l'homme est responsable de cet état de fait depuis qu'il a découvert le feu et qu'on ne peut pas aller contre ça. C'est deux visions sociologiques et anthropologiques très très différentes du dérèglement climatique actuel, enfin de ce qu'on vit actuellement.
Gilles, ta définition du capitalocène ?
C'est pas simplement une question de définition. Ce qui est important, c'est de voir qui continue actuellement comme si de rien n'était. On avait parlé la semaine dernière de choses qui continuent, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux causes. Et effectivement, qu'est-ce qui continue comme si de rien n'était, voire qui s'amplifie ?
Moi, je continue à rouler en diesel.
Par exemple, mais t'es pas le seul coupable. Les principaux coupables, c'est d'une part l'aviation, avec la massification du tourisme aérien, les bateaux, alors ça peut être des paquebots qui transportent des milliers de gens qui augmentent actuellement. Pour les avions, il faut quand même se rappeler qu'on est en train d'augmenter les surfaces d'aéroports et qu'on envisage le doublement des flottes aériennes d'ici une trentaine d'années. Donc c'est tout à fait énorme comme pollution. Niveau transport de marchandises, évidemment, complètement associé à la mondialisation, qui sont également en croissance. Il faut savoir que 90% des marchandises transportées sont transportées par bateau actuellement. Qu'est-ce qui continue comme si de rien n'était ? Eh bien, l'extraction de pétrole. On continue à travailler sur les énergies fossiles. Soit le pétrole qu'on va chercher de plus en plus profond dans la mer, soit maintenant les pétroles de schiste, etc. Qu'est-ce qui continue ? L'agriculture intensive. Qu'est-ce qui continue comme si de rien n'était ? L'exploitation des mines, les métaux rares pour fabriquer ton téléphone portable. Mais pas que ça, les mines d'or en particulier continuent aussi. Qu'est-ce qui continue, voire qui empire ? C'est l'utilisation des pesticides. Alors, on parle que chez nous, non seulement ça n'a pas diminué, mais ça a augmenté depuis la COP21. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des pays dans lesquels l'augmentation, elle est bien pire. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, par exemple, l'augmentation des pesticides, c'est bien pire que ce que c'était ici. Qu'est-ce qui augmente comme si de rien n'était ? C'est l'utilisation des bagnoles. L'utilisation des voitures, ça augmente. Toujours. Alors, on nous propose des voitures à essence qui polluent toujours. On nous propose des voitures électriques dont la fabrication va polluer à peu près autant, sinon plus, etc. Alors, toutes ces choses qui continuent comme si de rien n'était, la question qui est intéressante à se poser, c'est pourquoi ? Pour qui ? Eh bien, tout simplement parce que ça rapporte. Et ça rapporte à qui ? Ça rapporte aux actionnaires des multinationales. Parce que qui bénéficie du tourisme de masse ? Qui bénéficie des transports de marchandises ? Qui bénéficie du pétrole qu'on extrait ? Qui bénéficie de l'utilisation massive de pesticides ? C'est bien le capital. Et c'est pourquoi aussi, il faut faire attention à ne pas accuser de la même façon tous les espaces de la planète. Il y a des espaces plus coupables que d'autres.
On pollue plus aux États-Unis ou en France que au Sénégal, peut-être,
oui,
au Soudan.
Le truc, c'est de dire que c'est la Chine le plus gros pollueur. Oui, je veux bien, mais néanmoins, beaucoup de ces émissions sont liées aux produits de consommation qu'ils fabriquent et qu'ils vont exporter chez nous. C'est des émissions exportées. Les émissions qu'elles produisent, une bonne partie sont liées à notre consommation et non pas à leur consommation. On continue. Moi, j'entends des gens qui me parlent de transition. Moi, je me demande si transition, c'est pas piège à con.
Juste un détail par rapport à la Chine qui pollue beaucoup. Ce qu'il faut voir, c'est aussi de très loin le pays du monde qui est le plus en avant pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Ils sont très très fort en énergie solaire.
Ils sont en train de se renforcer dans plein de choses, mais ce que je veux dire, ils sont en train de remplacer progressivement les centrales à charbon, etc., etc. Donc ils sont vraiment à la pointe en matière de lutte contre le réchauffement climatique, même si on dit que c'est les plus gros pollueurs, peut-être en quantité, ceci dit par habitant, pas du tout.
Ils sont quoi, un milliard, non?
Ils sont à peu près ça, mais ce que je veux dire, c'est que les plus gros pollueurs par habitant, c'est les États-Unis.
Parce qu'il faut compter les émissions exportées. Par exemple, quand en Chine, on fabrique 10 millions de téléphones portables qui vont être vendus en Occident, les émissions liées à ces téléphones portables fabriqués en Chine ne sont pas allouées à la Chine, mais vont être allouées aux pays qui vont consommer les portables.
Les Chinois sont peut-être aussi parmi les premiers à découvrir que le solaire n'est pas forcément la solution. C'est très polluant, l'énergie solaire. On s'est rendu compte que les panneaux solaires ne sont pas forcément facilement recyclables, etc. Il n'y a pas de solution miracle, en fait.
Bon, voilà, c'est surtout, il n'y a pas de solution miracle. Et la solution miracle, tu sais ce que c'est ? C'est diminuer les consommations d'énergie. Déjà, dans un premier temps, c'est limiter les consommations d'énergie. Essayer d'éviter les effets rebonds par l'apparition de nouvelles technologies. L'effet rebond, c'est quand une technologie, tout d'un coup, est économe en énergie, on se dit « Ah ouais, c'est super, on va pouvoir l'utiliser ». C'est-à-dire qu'on en fait une surconsommation, ce qui fait que l'économie qu'on avait envisagée n'existe pas car on surconsomme le produit qui produit ces économies-là. Hein, on le voit avec les LED ou des choses comme ça. Je voulais revenir sur transition piège à con parce qu'en fait, on croit qu'on va substituer des énergies par une autre, qu'on va faire du développement durable en jouant sur les marges, que les industriels vont suivre par des engagements volontaires. Jusqu'à présent, dans notre histoire contemporaine, on a vu que aucune énergie ne s'est substituée à une autre. On a toujours vu des accumulations d'énergie qui ont permis des augmentations de consommation d'énergie. Hein, voilà. Et ensuite, la transition via les engagements des entreprises, non, il ne faut absolument pas y croire. Moi, ça fait 20 ans que je suis des engagements volontaires d'entreprises, de syndicats d'entreprises, de consortiums d'entreprises. Aucun n'a jamais marché. Si on fait confiance à l'incendiaire qui a allumé le feu, ça ne marchera pas, quoi. Hein, ça ne marchera pas. Et puis, je voulais revenir aussi sur cette espèce de contrition que tu as parce que tu as un ordinateur, parce que tu as un téléphone et parce que tu as une voiture. D'accord, tu as un ordinateur, tu as un téléphone, tu as une voiture. Actuellement, tu es obligé d'avoir... La voiture, c'est peut-être pas encore l'obligatoire 100%.
Si, quand tous les réseaux de chemin de fer sont systématiquement détruits, les petites lignes soi-disant non rentables fermées, etc., on pousse les gens à utiliser des voitures.
Ça, en fait, tu te coules la tête de cendre, mais c'est pas ça. Parce que, en fait, toute cette transformation, ça s'est fait avec nous, c'est vrai. On a acheté des ordinateurs, le capitalisme nous a donné une certaine notion du bonheur, d'un bonheur matériel, d'un bonheur avec des imaginaires qui sont complètement connectés à de la consommation, à la société du spectacle. Ça s'est fait avec nous et là, tu peux être un peu emmerdé. Mais en fait, ça s'est fait un peu malgré nous. On nous a dit de consommer, on a dit oui, en plus la mondialisation va permettre la consommation et l'édification de populations qui n'ont pas encore accès à ces technologies et donc elles vont s'édifier grâce à ça. Donc voilà, ça s'est fait malgré nous, en croyant bien faire. Et ça s'est fait sans nous, parce que en fait, en faisant ça, les industriels savaient très bien ce qu'ils faisaient. Le réchauffement climatique, c'est connu depuis les années 50. Exxon a déjà produit des rapports dans les années 50, disant que ouais, si on vend plus de pétrole, il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère, et donc il y aura, la température va augmenter. Donc voilà, c'était très connu, mais les industriels ont poursuivi. Tant que les politiques ne bougeaient pas, les industriels poursuivaient. Donc ça s'est fait rigoureusement sans nous. Donc il y a trois niveaux où on est cocu dans l'anthropocène. Et pour en sortir, il faut vraiment sortir du capitalisme, en effet.
La consommation est la drogue dure du système capitaliste. Comment se sevrer de cette addiction ? Comment sortir du capitalocène ? Pour commencer, Gilles, formule bien connue, penser global, agir local, résister là où l'on est, a commencé dans le quotidien. Et on n'a pas eu besoin des colibris de Pierre Rabhi pour y penser tout seul.
Première chose à faire sans doute, c'est de se préoccuper de résister. Des actions de résistance, il y en a. Il y en a de plus en plus. Ça fait bien plaisir. Évidemment, il y en a une que tout le monde a en tête parce que c'est très récent et c'est tout près de chez nous, c'est Notre-Dame-des-Landes, qui, il ne faut pas oublier, certes, a contribué à sauver le bocage, mais était au départ un mouvement contre la création d'un aéroport, de remplacement de terres agricoles par du béton d'aéroport. sachant en plus que combien les avions sont polluants. Hein, donc voilà, Notre-Dame-des-Landes, c'est une superbe action de résistance.
Et ce que disaient d'ailleurs les zadistes, c'était lutter contre ce grand projet inutile, qui n'est d'ailleurs hélas pas le seul. Ce que disaient les zadistes, lutter contre ce projet d'aéroport et son monde, contre le symbole, lutter contre cet aéroport et son monde.
C'est ça. Il y a bon, l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il y en a d'autres. Hein, actuellement, évidemment, tout le monde entend parler de Bure, on a entendu parler de Sivin, c'est avec projets de barrage qui sont actuellement contestés. Il y a des actions de résistance à une échelle encore plus grande. Il y a un exemple intéressant qui s'est passé au Mozambique il y a quelques années. Il y avait un énorme projet qui s'appelait le projet Pro-Savana, qui était monté par le Mozambique, le Japon et le Brésil, où il s'agissait de remplacer toute une partie du Mozambique dans laquelle il y a beaucoup de petits paysans qui travaillent leur agriculture, les remplacer par 14 millions d'hectares de maïs, soja, coton. Le soja, on sait entre autres que ça sert pour nourrir nos bêtes ici. Cette zone qu'on appelle le Makala Corridor au Mozambique, une grande, grande plaine dans laquelle il y avait 5 millions de petits paysans. Ce projet Pro-Savana a réussi à récupérer quelques milliers d'hectares, mais les petits paysans en question se sont tellement bien organisés en liaison avec des écologistes japonais et brésiliens. Ils ont fini par réussir à faire arrêter le projet Pro-Savana et actuellement, ce projet, il est mort. Des actions de résistance, c'est possible. Alors, c'est possible à l'échelle de la défense d'un site, comme ça a été à Notre-Dame-des-Landes. Là. C'est possible aussi au niveau de s'organiser localement pour vivre autrement. Je pense à des villes, par exemple, qui mettent en place des monnaies locales pour essayer de se passer des banques, qui développent des projets de ceinture verte avec de l'agriculture biologique autour, de l'approvisionnement local uniquement dans les épiceries des villes ou des villages. Ça se fait de plus en plus, ça se fait en France, ça se fait en Allemagne, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait au Danemark, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe, ça se fait. Et c'est des choses tout à fait possibles. Alors, de résistance à plus grande échelle, on peut en parler après, mais déjà au niveau individuel, il y a des questions qu'il faut se poser. Parce qu'habiter actuellement, chez nous par exemple, hein, ça veut dire se préparer à habiter autrement. Parce qu'effectivement, les changements, on va les prendre dans la figure, nos enfants encore plus que nous, et nos petits-enfants sans doute encore plus. Mais on a absolument besoin aujourd'hui d'apprendre à habiter autrement notre planète.
Ça va être compliqué si on ne sort pas donc du système capitaliste.
Ça va être compliqué si on ne sort pas de nos imaginaires qui ont été créés par le système capitaliste. Est-ce qu'on a besoin de raisins en hiver ? Qui c'est qui nous a appris à manger du raisin en hiver, par exemple ? Bon, manger du raisin en hiver, c'est pas la panacée quand même, puisque soit ça fait des importations de pays lointains, Afrique du Sud, Amérique du Sud ou ailleurs, soit ça fait des serres chauffées, mais c'est surtout de l'importation. Pourquoi on en est arrivé à manger du raisin en hiver ? Parce que c'était possible.
Puis même, on mange des bananes toute l'année, on mange des avocats toute l'année.
Ça, c'est encore un truc bizarre que j'ai pas encore réussi à comprendre. Pour moi, l'avocat, c'est un produit de luxe. Mais quand je vois sa diffusion à grande échelle, et sachant à peu près comment c'est cultivé, oui, ça m'effraie un peu. La banane, n'en parlons pas, puisque ça a stérilisé toute une région d'outre-mer, en Martinique, avec le problème du chlordécone, où on a le plus gros taux de cancer de la prostate au monde. Dans cette région-là, et on en revient au principe d'agir local, penser global. Quand tu penses raisin en hiver, bah tu penses Afrique du Sud, transport, encore émettre du CO2 pour bouffer du raisin. Quand tu penses avocat en permanence, bah pareil, transport. La banane, c'est plus historique quand même. On avait ce département d'outre-mer, fallait bien le faire vivre, fallait lui donner une culture, canne à sucre, banane, bon, banane export, pourquoi pas. Là, on va dire, il y a quelque chose d'historique. Voilà, c'est le principe, en fait, puisque c'est faisable, on le fait, et c'est bien. Non, voilà, il s'agit de commencer à réavoir une certaine mesure, une certaine notion de limite, une certaine notion de décence. C'est vraiment revenir, en fait, à des choses simples, revenir à une forme de convivialité. En fait, les plaisirs sophistiqués, on croit que c'est ça qui va nous amener le bonheur, mais en fait, on peut se rendre compte que c'est faux. Parce qu'il y a des plaisirs simples, manger de saison, avoir 4 livres de cuisine dans l'année au lieu d'en avoir un seul. Voilà, ça c'est déjà remarquable, c'est des plaisirs simples, se dire, attendre l'été, ah je vais enfin avoir des tomates, attendre l'hiver, ah je vais enfin manger tel légume. C'est un rythme, on est vivant, on respire avec son environnement, son entourage. Voilà, donc ça c'est presque un lien permaculturel. Et la permaculture, le raisonnement permaculturel permet aussi d'avoir une bonne approche de comment faire, comment penser différemment, comment éviter d'être absorbé dans des faux plaisirs, dans des espèces de gestes de consommation, mais qui, au bout du compte, on se rend compte qu'ils sont inutiles et voire mortifères pour d'autres. Penser local, agir global. L'autre coup, je te donne l'exemple d'une télé que tu laisses dehors chez toi parce qu'elle ne marche plus, ou même elle marche, tu n'as pas envie de l'amener à la déchetterie. Cette télé, tu as 9 chances sur 10 qu'elle se retrouve en Afrique sur une décharge sauvage ou en Asie sur une décharge sauvage en train de créer des pollutions et des maladies à 10 000 km de chez toi. Alors que toi, tu n'as fait que sortir ta télé et tu as eu la flemme de l'amener à la déchetterie. En plus, tu payes une éco-contribution pour justement recycler ça. Et toi, non, tu la fous dehors parce que tu as la flemme, ça fait chier à la déchetterie. Et donc, ainsi, d'une petite action locale, tu te retrouves à aller polluer des gens à 10 000 bornes, à leur filer des maladies. Agir local et penser global, car une action ici a forcément des répercussions ailleurs, surtout si l'endroit est lointain. Il y aura toujours des répercussions plus importantes.
Décoloniser nos imaginaires des mythologies capitalistes, lutter contre ce système mortifère, avoir conscience de notre propre impact à nous, individus, bah ouais, on n'est pas exactement rien, on est des tout petits quelque chose qui ont un impact. Bah ça commence par des choses très simples, comme ce que nous mangeons. Et ça me ramène à un homme à qui je dois beaucoup, personnage formidable qui s'appelait Jean-Pierre Coff et qui aimait cuisiner. Jusqu'à la fin des années 80, j'avais toujours trouvé normal qu'on puisse manger des fraises à Noël, puisque c'est possible. Encore, bon, c'était pas des vraies fraises, mais bon. Et puis un jour à la télé, j'ai entendu Jean-Pierre Coff dire un truc qui m'a bouleversé. Manger des fruits et des légumes de saison. Des années plus tard, et peu de temps avant sa mort, je suis allé voir Jean-Pierre Coff qui m'a rappelé ces choses essentielles dont Gilles et Val sont en train de vous parler.
Par définition, on ne jette rien. On a perdu la notion que le pain était absolument fondamental. C'était la base de la nourriture. C'était ce qu'il y avait de plus précieux depuis toujours. Alors on le méprise, on le jette, peut-être parce qu'effectivement les boulangers ont oublié de faire des efforts pour faire du bon pain. Enfin, même si maintenant il faut reconnaître qu'il y a des boulangers qui se donnent beaucoup de mal et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais en règle générale, quand le pain était médiocre, il y a encore 20 ans de ça, ben on le jetait. On peut faire énormément de choses avec du pain. Vous trempez de la mie de pain, vous pouvez faire une farce, vous pouvez faire des desserts formidables avec du pain. Au lieu d'utiliser des biscuits à la cuillère ou des biscuits de Reims pour faire une charlotte, quand je vois le prix auquel est vendue la chapelure. Chapelure sur un gratin, c'est ce qui permet de gratiner facilement sur une tomate à la Provence. Hein, on met un peu de chapelure, le résultat est formidable. Ben non, on achète de la chapelure, ce qui est quand même la chose la plus conne qui soit. On peut tout faire avec du pain, c'est une absurdité que de vouloir le jeter. Je pense que ça commencerait idéalement, le principe du « je ne jette rien », à faire des courses normalement. Or le consommateur est pris de panique quand il est chez un commerçant et s'imagine qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut. Vous dites « je veux un beefsteak de 120 grammes, il fait 150 », vous dites « j'en veux pas ». Eh ben, il vous en enlèvera pas un morceau, de toute façon il s'en fout, il va le mettre dans la machine à faire du steak haché. Mais vous ne pouvez pas acheter plus que ce dont vous avez besoin, sinon ça part à la poubelle. C'est largement suffisant d'avoir 120-140 grammes de viande par personne une fois tous les deux jours, c'est très bien pour la nutrition normale.
Alors on peut aussi manger moins de viande, ou même arrêter d'en manger tout court. Mais le meilleur reste à venir.
La règle, c'est acheter des produits de saison. Il faut réapprendre qu'il y a un hiver, un printemps, un été, l'automne. À chacune des saisons, il y a des produits d'excellence qu'il faut absolument privilégier parce que ce sont des produits qui, généralement, n'ont pas voyagé, qui sont proches de nous et parce que le fait qu'ils soient de saison et à maturité leur apporte beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur, beaucoup plus d'odeur. On vit à ce rythme-là. On ne s'habille pas en été comme on s'habille en hiver. Ben, on ne mange pas la même chose non plus parce qu'on a moins besoin de calories. Je vous ai dit la choucroute et en même temps, je me dis, ben, y a une choucroute d'été. Mais il y a du chou d'été, il y a du chou de printemps, puis il y a aussi du chou d'hiver. Aller sur le marché, mais le fait d'aller sur les marchés avec des enfants, ça leur permet de voir des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Actuellement, sur les marchés, il y a par exemple des pâtissons, et ça passe ce que c'est. Il faut acheter du produit local. Moi, je vais vous raconter une histoire. Je vais un jour sur le marché du Mans, marché avec beaucoup de petits producteurs, et il y avait un vieux monsieur qui vendait des belles de Boscope. C'est typiquement un fruit régional. Et je faisais le marché avec une dame. Elle me dit, ben pourquoi vous achetez ces pommes-là? Parce que j'ai vu des pommes en face, elles sont bien plus belles. Vous savez d'où elles viennent, celles-là? Ah ben, elle me dit, elles viennent d'Afrique du Sud. Vous savez quel temps il fait en Afrique du Sud actuellement? Est-ce que vous croyez que c'est de la saison pour récolter des pommes? Non. C'est des pommes qui ont combien de temps? Vous avez demandé quand elles avaient été récoltées? Ah non. Et je dis, regardez le prix. Elles étaient à 4,33. Et moi, mes pommes, elles étaient à 2 euros. Il y a du transport, il y a du stockage, il y a tous les intermédiaires qui sucrent là-dedans. Le vieux monsieur, il vendait de bon marché. C'était des pommes sublimes qu'il avait ramassées le matin même sur son arbre. En France, il faudrait qu'on supprime complètement les intermédiaires. Le pomologue qui va récolter des pommes, il va les porter à une coopérative. La coopérative va le garder, souvent en chambre froide, et redistribuer les pommes un peu plus tard dans la saison. Et en même temps, il va faire le même boulot en Afrique du Sud, au Maroc, pour la pomme ou le melon, etc., pour avoir des fruits qui vont arriver et concurrencer les produits de ses propres producteurs. Et c'est là où je considère qu'il ne devrait pas y avoir de subvention. C'est que les gens qui font ça, les coopérateurs, sont des gens qui devraient être punis de faire des choses comme ça. Investir de l'argent des coopérateurs français pour aller investir à l'étranger et en réalité ramener les produits à la contre-saison pour concurrencer les produits typiquement d'origine française, c'est indigne, ça.
Acheter français et de proximité.
Et alors, vous savez qu'il y a une obligation légale, quel que soit le magasin, y compris sur les marchés, d'indiquer l'origine des produits.
Merci au regretté et brillant Jean-Pierre Coff, qui était pourtant pas un gauchiste, mais qui vous dit ici des choses qui relèvent peut-être de l'évidence pour vous, mais qui, à la fin des années 80, ont été pour moi une véritable révolution culturelle. Le début d'une décolonisation de mon imaginaire capitaliste. La révolution, Gilles, ça passe d'abord par l'éducation.
Oui, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi, avec Val, on a eu envie de faire cette conférence et qu'on a envie de diffuser ses idées. Val parlait d'éducation populaire. Il s'agit d'éduquer les gens à travers un certain nombre d'exemples, de leur montrer qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'on peut tout à fait pratiquer d'ores et déjà. Renverser le capitalisme, oui, bien sûr, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas comment, très bien non plus. Il n'y a pas forcément à attendre. Même si on peut se dire que pour que ça dure, effectivement, il faudra s'en débarrasser, vu que c'est lui qui est coupable de plein de choses. En attendant, il y a des choses qu'on peut faire déjà tout de suite dans le domaine de la résistance, comme je disais tout à l'heure, on pourra y revenir, mais même au niveau individuel, on peut développer un certain nombre de qualités qui, de toute façon, vont devenir nécessaires, comme la sobriété, comme la nourriture locale et de saison, comme tu viens de le dire. Essayer de développer des habitats alternatifs, avec plus économes en énergie, etc. Essayer de rénover, de réparer, plutôt que de jeter. Essayer d'avoir, de faire durer les choses. Je pensais tout à l'heure à ce que tu disais sur l'informatique, l'ordinateur, etc., auquel personnellement, moi, je tiens beaucoup, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on peut faire toutes ces études sur le climat. C'est grâce à lui qu'on est au courant des résultats de ces études sur le climat.
C'est grâce à lui qu'on peut faire cette émission de radio aujourd'hui.
Voilà, c'est grâce à lui aussi que les gens peuvent s'organiser pour manifester, justement pour essayer de faire que les politiques soient un peu plus actifs au niveau de ça aussi. Ça sert à énormément de choses. Il n'est pas du tout question de revenir à la bougie, comme on nous dit parfois. Il est tout à fait question de continuer à utiliser ces choses-là, continuer à utiliser les avions, mais on n'est pas obligé de les utiliser autant. On peut aussi voyager de façon plus locale, plus économique, etc., ça ne veut pas dire de s'interdire totalement la voiture, ça ne veut pas dire de s'interdire totalement l'avion, etc. etc. Donc il y a des choses, tenir compte des saisons, recycler, c'est une idée aussi tout à fait importante. On a des ressourceries, hein. On a aussi des gens qui s'occupent de vous apprendre à réparer vous-même votre vélo, etc. Emprunter les uns aux autres, se passer les choses. On a aussi une pratique qui est tout à fait intéressante qu'on appelle les zones de gratuité, c'est-à-dire où on donne les choses dont on n'a plus besoin plutôt que de les jeter. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a plus besoin qui sont intéressantes pour d'autres. Je pense à tout un tas de vêtements, par exemple, de bouquins, de CD, de musique et tout ça. Il faut absolument les distribuer, que ce soit réutilisé par d'autres. Il faut échanger, il faut éviter les achats inutiles, il faut éviter de consommer des choses dont on n'a pas besoin. Tout ça, ce sont des petites choses que, individuellement, chacun peut faire, qui ne vont pas résoudre le problème des émissions de CO2, etc., totalement, à elles toutes seules, mais qui vont contribuer, et surtout, qui, idéologiquement, vont nous aider, vont nous préparer à vivre autrement. Je pense à l'exemple, par exemple, des jardins partagés qu'on trouve en ville. Ces jardins partagés, évidemment, ne vont pas nourrir la ville. Évidemment, ça ne va pas remplacer ce que font les agriculteurs autour. Mais c'est apprendre à produire soi-même, à produire collectivement. En fait, le mot que je trouve intéressant dans jardin partagé, c'est partage. Ça apprend une certaine solidarité autour des questions de la nature, autour des questions de l'alimentation. On peut s'organiser collectivement pour faire des choses. Il y en a des tas de démonstrations, mais les jardins partagés, par exemple, c'en est un bon exemple. Notre-Dame-des-Landes n'aurait pas été victorieux sans l'énorme soutien dont ils ont bénéficié. Des villes aux alentours, Nantes en premier lieu, évidemment, c'est la plus proche, mais de toute la France, il y a eu des soutiens à Notre-Dame-des-Landes. Cette organisation a été tout à fait déterminante dans le succès de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau d'un village. Un exemple intéressant, c'est l'exemple de Trémargat. Trémargat, c'est un tout petit village, 450 habitants environ, dans le centre de la Bretagne. Un petit village paysan dans lequel le maire a lancé une société, une SCI, pour récolter de l'argent. Cette SCI, elle est approvisionnée par des habitants d'un quartier de Saint-Brieuc, quartier qui était relativement mobilisé sur les questions d'environnement, sur les questions de climat. Et ces habitants de Saint-Brieuc, plutôt que de mettre leur argent d'épargne à la caisse d'épargne ou je ne sais où, le mettent dans cette SCI. Et avec cet argent, la SCI achète des terres avec les droits de préemption qu'ont les maires sur un certain nombre de terres. Au fur et à mesure que des paysans s'en vont à la retraite ou arrêtent, ils achètent les terres et ils louent les terres ensuite à des jeunes paysans qui, eux, n'ont pas les moyens d'acheter, mais qui ont les moyens de louer, et des jeunes paysans qui se mettent en agriculture biologique. Et on crée autour de Trémargat une espèce de ceinture verte en agriculture bio qui a permis de mettre en route une épicerie associative qui avait disparu et qui revient maintenant approvisionnée de façon locale par tous les paysans qui sont autour. Et cet exemple de Trémargat est tout à fait intéressant, de choses qu'on peut faire à un niveau local, un petit peu plus grand qu'individuel, mais déjà collectif, on peut faire des choses. Alors, à soi tout seul, un seul Trémargat ne va pas changer l'état de l'atmosphère, ne va pas changer le fait que les océans s'acidifient, mais ça fait école et ça prépare les gens à vivre autrement. Ça, c'est tout à fait important. Et effectivement, Trémargat est en train de faire des petits autour.
Gilles a évoqué Trémargat ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On va aussi vous parler des zapatistes du Mexique ou encore des expériences communautaires que des Kurdes mènent au Rojava, au nord-est de la Syrie. Les Kurdes, hein, ce sont ces gens admirables qui ont courageusement combattu Daesh et que l'Occident laisse aujourd'hui lamentablement tomber.
Et ailleurs, certaines communautés autonomes en Espagne, et ailleurs, dans le Pays Basque aussi, où ça bouge beaucoup.
C'est des choses très intéressantes au Portugal aussi, j'ai lu en ce moment.
Oui, voilà, voilà. On est en train d'arriver à des archipels, c'est un peu ce que dit Damasio, c'est-à-dire une société avec des archipels où dans certaines zones, ben, il y aura des gens qui auront pris leur destin en main, d'une façon un peu décrite comme ça, ou avec des communautés autonomes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir à la bougie, ils seront toujours vaccinés, il y aura toujours un ordinateur dans le coin, il y aura toujours un ou deux téléphones portables dans le coin, mais simplement c'est des communautés, c'est une façon de vivre qui est complètement différente, où on sort de la société du spectacle en fait, voilà. On se déterritorialise du cercle capitaliste pour revenir dans un nouveau territoire, très rare territoire, qui ne soit pas investi par le capitalisme. Donc cette société d'archipel, alors après on espère que tous ces archipels se rejoignent, ça crée des nouveaux territoires, c'est un fantasme en quelque sorte. Il y a les archipels révolutionnaires qui pourront renverser le système, bon ça aussi c'est un fantasme. Moi je pense pas qu'en France on puisse avoir une armée révolutionnaire qui remplace le système. Par exemple, un archipel aussi d'autonomie, c'est les Chiapas, avec le mouvement zapatiste. Donc là, on a vraiment une région autonome qui a décidé véritablement de chasser tout ce qui est capitalisme. Bon, maintenant, tout le monde n'en est pas capable de faire ça. Par exemple, et voilà, la question que je disais, mais en ce cas-là, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement zapatiste, puisqu'on a un mouvement presque révolutionnaire des Gilets jaunes qui a mis le doigt juste sur quelque chose, c'est-à-dire une taxe carbone qui n'en portait que le nom. C'est-à-dire que cette taxe carbone n'allait pas du tout pour la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, c'était là la grosse arnaque et je comprends leur énervement.
Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas du tout un mouvement zapatiste. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui revendique quelque chose à l'État. Les zapatistes sont des gens qui ont décidé de se passer d'État et de pratiquer une démocratie totale, c'est-à-dire que tout est décidé par les gens. Les regroupements des habitants, les habitants d'une commune élisent un représentant, les représentants se réunissent pour représenter plusieurs communes à la fois, etc. Donc ces gens qu'ici on appellerait des dirigeants, sont pas en fait des dirigeants, sont des gens qui font la synthèse de ce que les communes ont à dire. De ces synthèses, ils ne décident pas de ce qu'on va faire. Un dirigeant chez eux, ça écoute, ça ne décide rien. Quand ils font à partir de ce qu'ils ont récupéré comme information venant de la base des communes, ils font des propositions, ces propositions redescendent, et c'est toujours au niveau de la base que les décisions sont prises ou pas. C'est-à-dire que des communes peuvent décider de ne pas suivre les préconisations que les responsables ont fait quand ils se sont regroupés. Ça, c'est de la démocratie directe. Bon, alors c'est vrai que les zapatistes ont libéré cette zone militairement. C'est une armée de libération qui a libéré le Chiapas. Cette armée de libération, elle existe toujours. Et les menaces contre la démocratie, elles existent toujours. Parce qu'effectivement, au Mexique, ils ont envie de faire passer des pipelines justement par là. Ils ont des paramilitaires. Alors peut-être ça va diminuer avec le nouveau pouvoir qu'on a au Mexique depuis un an. Mais ils ont toujours des paramilitaires extrêmement dangereux et extrêmement actifs contre les zapatistes. Donc cette armée, elle existe toujours. Mais le fondement de l'idéologie et du système que les zapatistes ont mis en place, c'est le refus de l'État. Parce qu'à partir du moment où vous avez des dirigeants qui décident à votre place, c'est fini, il n'y a plus de démocratie. Toute la question est de l'État. Donc tant que vous avez des gens qui décident, qui ont intérêt ou qui sont copains avec des gens qui ont intérêt à ce qu'on continue à polluer, on va continuer à polluer. C'est pour ça que dans la durée, tant qu'on a un État capitaliste au-dessus de nous, ça ne va pas s'arrêter. On aura un mal fou. Alors, on peut effectivement ralentir dans certains endroits momentanément, même éventuellement dans la durée, comme les exemples que je donnais de Tremargat. Il y a aussi des exemples au Kerala, en Inde. On peut ralentir les choses localement, faire des choses locales, mais dans la durée, la lutte va être tout le temps permanente. À partir du moment où il y a un État, c'est-à-dire des lois qui sont dictées par des gens qui ont intérêt à ce que ça continue, ça ne va pas s'arrêter comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est la question de l'État qui est la question centrale. C'est-à-dire que si on veut un développement harmonieux, je veux dire harmonieux, un développement qui corresponde à ce que les gens souhaitent, il faut que ce soit les gens qui le souhaitent qui décident de la façon dont ça fonctionne et dont ça se développe, etc. Et cette démocratie totale qui pratique quand même depuis bientôt une trentaine d'années au Chiapas, hein, et qu'il pratique depuis 3-4 ans au Rojava en Syrie du Nord, au nord-est de la Syrie, cette démocratie totale où on se passe complètement de l'État. Rojava, ils n'en sont pas encore à pouvoir s'en passer complètement, mais ils avancent dans ce sens-là, ils avancent dans la construction d'une démocratie directe par les gens. Il n'y a pas des dirigeants au-dessus qui décident pour la base, toutes les décisions sont prises à la base.
Ça, c'est l'utopie anarchiste.
Où c'est tout pas une
utopie. Les utopies, d'ailleurs, ce sont des choses qui se réalisent. Hein. L'interdiction du travail des enfants ou le droit de vote des femmes ont longtemps été des utopies qui sont devenues des réalités. Mais moi, je ne suis pas persuadé que l'État, qui à mon sens n'est qu'un outil, soit le problème. C'est comme de dire les marteaux sont méchants parce qu'un jour je me suis tapé sur les doigts avec. Ce qui est problème, c'est qui pilote l'État. Or, on voit bien que notre problème, c'est qu'il y a des castes de larbins politiques, les Macron, les Sarkozy, les Hollande, les Mitterrand, les tout ça, Giscard, enfin pour ne citer que ceux qui ont défilé sur le trône de France, n'étaient que les valets du capital. Donc on a des gens nuisibles qui se retrouvent à la tête de cet outil qui est l'État. Je ne suis pas sûr que l'État soit le problème. À mon avis, le problème, c'est qui est aux manettes de l'État.
C'est qui on et c'est qui va décider de comment on fait. Tu parles d'un État, c'est le marteau. Non, tu connais un État qui a permis aux gens de décider eux-mêmes. Non.
Parce que tout ça, c'est une lutte. Enfin, je veux dire, il faut le gagner. Normalement, l'État, c'est nous, puisque c'est nous qui le finançons déjà.
Non, l'État, c'est pas nous.
Ça devrait être nous.
Non. Il faut pas rêver. Je veux dire, l'État, c'est aussi une police dont on décide rien, c'est une armée dont on décide rien, c'est une justice aux ordres, etc., etc. C'est ça, un État.
Non, mais si on était dans une société anarchiste, c'est-à-dire où chacun est responsable, éduqué et respectueux des autres, on serait dans une société harmonieuse où on n'aurait pas besoin de police, où on n'aurait pas besoin d'armée, parce que tout le monde serait responsable. Ça n'empêche pas qu'on ait des outils quand même. Si c'est plus l'État, qui paye les fonctionnaires, qui paye les gens qui t'apportent le courrier, conduisent les trains?
Je te donner un exemple amusant. Au Chiapas, il n'y a pas très très longtemps, dans une petite commune, il s'agissait de mettre en place l'enseignement pour les enfants, donc de créer une école primaire. Et il y a un jeune qui, avant, travaillait comme paysan, qui était volontaire pour aller se former pour devenir instituteur. Et il est devenu instituteur. Sauf que son père, paysan comme lui, lui dit, mais dis donc, c'est bien gentil ton truc, là maintenant tu fais la classe aux enfants, mais qui est-ce qui va cultiver ton champ? Effectivement, il n'a plus le temps. On ne peut pas être partout.
Les enfants, retour au travail des enfants.
Non, les gens de la commune ont dit, ben oui, ce type est tout à fait important pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, qui est une chose à laquelle on tient. On va se partager le travail de cultiver son champ, et évidemment, les produits de son champ lui reviendront. Ça, c'est du collectivisme. Ce que je veux dire, c'est que quand tu me dis, mais une société dans laquelle la justice ne tombe pas d'un pouvoir d'État, dans lequel il n'y a pas besoin d'une police ou d'une police très différente, etc., oui, ça s'appelle une société sans État. Tu as raison de dire qu'on a besoin de se coordonner. On ne peut pas faire chacun son truc dans son coin. Donc cette coordination, elle existe. Je reprends l'exemple du Chiapas, mais on a les mêmes choses au Rojava. Une commune ou un quartier d'une ville, hein, pour une ville plus grande, ce sera un quartier. Pour une petite commune agricole, ce sera une commune. Va élire, d'une façon particulière d'ailleurs, parce que quand il y a des élections, il n'y a pas le droit d'être candidat. Va désigner donc, si on veut, celui ou celle qui juge le plus capable de les représenter. Et ces représentants vont se regrouper pour échanger des expériences négatives, des expériences positives. Dans tel coin on a fait ça, ça a marché. Dans tel coin on a essayé ça, ça n'a pas marché, etc., etc., etc. À partir de ces regroupements, il peut y avoir encore un étage de regroupement supplémentaire, encore plus haut si tu veux. Mais ce qui est tout à fait important, c'est que ces gens-là qui ont été désignés sont remplaçables n'importe quand. C'est-à-dire il suffit qu'ils fassent quelque chose qui ne correspond pas à ce que la base a décidé et on les vire, on les remplace. Ils ne sont élus que pour une durée d'un an maximum, non renouvelable. C'est donc un petit peu chacun son tour d'être représentant. Et encore une fois, la chose tout à fait essentielle là-dedans, c'est que ces représentants écoutent, ne décident rien. Ils synthétisent, ils ne décident rien. Ils font des propositions qui sont décidées à la base. Et il n'y a pas besoin d'un État. Effectivement, il y a une coordination, il y a besoin d'eux. Qui paye les fonctionnaires? Eh bien, effectivement, on se débrouille pour payer les fonctionnaires. Ce n'est pas forcément un État au niveau national. Il y a quelque chose aussi qui est perdu, qui est tout à fait essentiel dans l'idée d'État, c'est la diversité. Actuellement, on a un slogan de la République qui s'appelle « Liberté, égalité, fraternité ». Personnellement, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans ce slogan, c'est que les deux extrêmes, à savoir liberté et fraternité, ne sont pas possibles si le truc du milieu n'est pas fait. Tant qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté possible. Et tant qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité possible.
Comme disait Coluche, les hommes naissent libres et égaux, à part qu'après, il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
Bon, égalité, j'ai envie de le garder, mais j'ajouterais diversité. Donc égalité, diversité. Et puis il y en a un troisième qui manque terriblement dans notre slogan républicain, c'est la solidarité. Égalité, diversité, solidarité. Voilà trois mots d'ordre qui me plaisent beaucoup plus, qu'on peut essayer de mettre en place éventuellement au niveau local, mais qu'il faudra que ça soit le slogan pour tout le monde. Mais il faut respecter aussi la diversité. Ce que des paysans en Bretagne vont décider, ce n'est pas forcément la même chose que dans le Languedoc ou dans les Alpes. Hein.
Encore, on a eu du bol parce que cette devise de la République, liberté, égalité, fraternité, donc née avec la révolution bourgeoise de 1789, hein, donc qui abat la monarchie pour mettre en place en fait la nouvelle monarchie de l'argent. Le peuple a juste changé d'oppresseur. À la base, les bourgeois révolutionnaires avaient comme projet de devise liberté, égalité, propriété. Il y a aussi des histoires d'unité humaine. C'est que souvent, on se rend compte qu'à plus de 300, ça devient le bordel pour se diriger. Or, nous, on est censé être une nation d'environ 67 millions de personnes et c'est difficile de coordonner tout ça. Est-ce qu'une solution ne serait pas peut-être des unités humaines plus petites ? Et puis, deuxième point, je me suis fait l'avocat du diable hein, sur l'utilité de l'État. Or, je suis allé voir un petit peu à Notre-Dame-des-Landes comment les zadistes se sont organisés pendant près de 10 ans. Alors, c'était pas merveilleux, c'était pas l'île aux enfants, ça a été très dur. Il y a eu même des choses très très dures qui se sont passées entre zadistes. Les zadistes qui n'étaient pas une bulle hors société, hein, ils avaient les mêmes problèmes qu'on trouve dans la société. Bah ouais, il y a des zonards devant la gare de Nantes, bah, y en avait aussi des punks à chiens alcoolisés sur la ZAD, parce que la ZAD n'est pas hors société. Mais le fait est que j'ai été stupéfait de voir que pendant 10 ans, les zadistes... Ils ont fabriqué et produit des tonnes de nourriture, de légumes. Beaucoup de ces légumes produits ont notamment alimenté la jungle de Calais. Ils ont aussi organisé ces zadistes des zones de gratuité, c'est-à-dire qu'ils avaient des fournils un petit peu partout, et qu'il y avait des jours de non-marché. Je crois qu'une ou deux fois par semaine, on pouvait aller soit acheter si on avait un petit peu d'argent, soit prendre. Ils ont quand même tenu 10 ans en résistance, sans police, sans justice, sans hôpitaux psychiatriques. S'ils n'avaient pas été cohérents, soudés, dans l'écoute les uns des autres, eh ben ça n'aurait pas duré 10 ans. Ça se serait écroulé au bout de 3 semaines, leur truc. Or, cette expérience, moi, m'a redonné beaucoup de baume au cœur, parce que je me dis que finalement, les gens sont peut-être pas si cons que ça, et que quand ils ont envie de faire société en se passant d'État, on peut quand même y arriver. Moi, j'avoue que j'ai été vraiment bluffé, quoi. Si vous n'aviez pas eu envie de faire société ensemble pendant 10 ans, bah, votre truc, ça aurait duré 15 jours et les flics vous auraient laminé en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Sans police, sans justice, sans hôpitaux psychiatriques.
Et j'ajouterais malgré la police. Parce que ça, ils en ont eu leur dose. Et ça a aussi fonctionné beaucoup parce que les gens ont parlé. Ils ont beaucoup parlé. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord d'emblée. C'est vrai que, comme disait Val tout à l'heure, on a tout un tas de conceptions héritées de notre culture capitaliste, de notre culture bourgeoise qu'on traîne depuis plusieurs générations, qu'il faut faire évoluer petit à petit. Dans mon quartier, on met en place tous les ans une zone de gratuité. Les gens maintenant dans le quartier, ils connaissent, ils savent ce que c'est, mais les gens qui passent et qui rencontrent ça, ils disent « comment on peut prendre sans payer ?» Comment ça se fait? Mais comment vous faites? Ce que vous avez là, les vêtements, les livres, les trucs, les jouets, servez-vous, c'est des choses que les gens sont prêts à vous donner. Ils sont prêts à donner. Et on est tous prêts à donner des choses dont on ne se sert pas et qui ne marchent plus. Simplement, il faut y penser, il faut donner l'idée, etc. Il faut y réfléchir. Et
les gens peuvent se montrer assez respectueux de ça. Je reviens à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'avais vu ces zones de non-marché. Donc, si tu veux du pain, bah, soit tu peux le payer, soit le prendre. C'est-à-dire qu'à l'autre bout du tuyau, il y a quand même des gens qui ont travaillé pour faire pousser la céréale, pour la moudre, pour faire de la farine, pour cuire le pain. Enfin, il y a du boulot derrière. Et puis, on peut prendre. Et j'avais dit à un zadiste, ouais, mais enfin, les Français et les gens sont des connards, il y aura toujours des connards pour prendre, pour flouer le truc. Et le zadiste m'avait répondu un truc qui m'a stupéfait, il m'a dit « ouais mais ici, personne n'a envie d'être un connard ». Et donc c'est pour ça que ça fonctionne. Et que non, il n'y a pas un gars ou une fille qui va arriver pour prendre tout le pain sans le payer et ne pas en laisser aux autres. En fait, personne n'a envie d'être ce personnage-là.
Il y a des choses comme ça qui se passent. Hein. Je pense au Rojava, par exemple, où des récits tout à fait intéressants qui étaient faits par des jeunes Français qui sont allés là-bas un petit peu à la façon des brigades internationales pour aider les gens à se battre contre l'État islamique. Et donc, qui ont vécu un an, deux ans, pour certains, au Rojava, et qui ont vu ces choses-là se mettre en place. Et effectivement, il y a des gens qui déraillent, il y a des gens qui font le con, comme tu dis, mais on n'a pas besoin de police et de justice instituée, d'État, pour résoudre ça. C'est-à-dire que le village se réunit, ou le quartier se réunit, bref, les gens qui le connaissent se réunissent, et la personne est priée de s'expliquer, tout simplement. Voilà, et s'il y a besoin d'avoir un œil un peu plus attentif sur elle, ben, tout le monde va faire un petit peu attention. On va le suivre, mais on va pas le coller en prison parce qu'il a volé un pain, quoi. Je veux dire, voilà.
Ce qui est intéressant sur le Rojava, c'est un mouvement qui s'est inspiré d'un anarchiste qui a beaucoup écrit, Murray Bookchin. Et cet homme donc, a développé des thèses anarchistes et écologistes. Et Öcalan, qui était en prison, a lu Murray Bookchin et a dit « c'est lui qu'on va appliquer ». Et il a diffusé donc la pensée de Murray Bookchin au sein des Kurdes, et c'est comme ça que la société du Rojava est en train de se créer. Ce n'est plus à partir de bases marxistes, par exemple, c'est carrément à partir d'une base anarchiste. Donc voilà, c'est aussi une grosse différence par rapport au terreau qui pouvait créer des mouvements révolutionnaires avant. On sort de Marx pour arriver à des nouveaux penseurs, quand même.
Il y a un truc qui m'a bouleversé il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas ce que ça vaut scientifiquement, mais j'ai vu passer ça, il y a des scientifiques qui, par des expériences sur des nouveau-nés notamment, en sont arrivés à la conclusion que non, contrairement à ce que je pense, l'être humain n'est pas foncièrement mauvais, voire même l'entraide et la solidarité seraient même profondément inscrits en nous. Voilà, on n'est pas des animaux grégaires pour rien, et ce n'est même pas une histoire d'être gentil ou pas. On a gravé en nous le fait qu'on ne peut s'en sortir que si on est solidaires les uns des autres. C'est un truc qui a permis peut-être même à notre espèce de sapiens de perdurer. Bon, après on s'est fait pervertir par les idées capitalistes, mais que foncièrement, on aurait la solidarité et l'entraide profondément inscrits en nous-mêmes.
Cette idée-là, elle n'est pas nouvelle du tout, puisque c'est les grands penseurs de l'anarchisme, c'est en particulier Kropotkin, qui a énormément développé cette idée-là. C'est cette idée qu'effectivement, c'était par la solidarité et l'entraide que l'espèce humaine avait réussi à se débrouiller, sans avoir des crocs ou des griffes comme les ours ou des crocs comme les lions. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait peut-être pas survécu. Mais effectivement, c'est la base de la pensée anarchiste. Toute l'œuvre de Kropotkin, c'est une œuvre qui dit non, non, la concurrence, ce n'est pas du tout dans notre nature. Ça a été installé par des gens qui avaient quelque chose à y gagner, mais ce n'est pas du tout dans notre nature. Et historiquement, l'espèce humaine, elle s'est développée parce qu'elle a été capable de collaborer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de conflit. À l'intérieur d'une tribu, il y a une collaboration énorme. Il y a une entraide totale. Il y a une solidarité parfaite. Alors, il peut y avoir des conflits territoriaux ou autres entre tribus, il ne s'agit pas de nier ça. Mais à l'intérieur d'une tribu, les relations sont tout à fait bonnes.
J'en viens justement à notre histoire d'échelle. C'est compliqué de se gérer à 67 millions. C'est plus simple quand on est quelques centaines d'individus. Et là, j'en reviens à des pans de certaines doctrines anarchistes. Regroupons-nous par affinité. Petites unités humaines à nous gérer nous-mêmes, c'est plus facile à quelques centaines d'individus qu'à plusieurs dizaines de millions.
Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de diversité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de prendre les mêmes décisions dans différents endroits. Il y a aussi un truc qui a été intéressant, c'est que Chavez avait commencé au Venezuela. Au niveau des communes agricoles, c'est relativement simple à organiser. Le fait que les gens se regroupent, s'organisent, désignent un représentant, etc. Dans les villes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Chavez avait commencé à impulser ces choses-là au niveau des villes par quartier. Tout simplement par quartier. Et effectivement, dans une ville, il n'y a pas de raison de penser que tous les quartiers ont les mêmes envies, ont les mêmes besoins, ont les mêmes choses à faire. La diversité, ça c'est une des caractéristiques des pouvoirs. Hein. Un pouvoir municipal nie la diversité au niveau local. Un pouvoir d'État nie la diversité au niveau régional. C'est complètement catastrophique.
On nivelle, on trouve le plus petit des facteurs communs, et puis oui, voilà, on nivelle. Donc, par rapport à ça, On est en train d'expérimenter un nouvel état. La Terre est en train de basculer dans un état que le genre humain n'a jamais expérimenté. Ce basculement, on en connaît les causes. C'est un système social, socio-économique, qui s'appelle le capitalisme, qui considère le système Terre comme une corne d'abondance et où la notion de limite, même si elle est réelle, ils ont décidé de ne pas en tenir compte. Donc, en fait, pour en sortir, pour habiter ce nouvel état, déjà, il faut utiliser un peu de radicalité, c'est-à-dire, il faut revoir le système socio-économique dans lequel on baigne. Ça ne va pas changer les choses, parce que le basculement de la Terre, il a eu lieu maintenant. Il a eu lieu. On y rentre tranquillement. Alors, soit on continue dans une démarche progressiste, croissance verte, développement durable, en croyant que la technoscience et l'innovation technoscientifique va nous sauver. Ça, c'est Macron, c'est le système en place. Quand on parle d'innovation, on parle toujours d'innovation scientifique. Mais on ne parle jamais d'innovation sociale. On ne parle jamais d'innovation socio-économique. On ne parle jamais d'innovation économique. Alors que c'est là le champ de recherche le plus important qu'il y a à notre époque. L'innovation technologique, ça va, on sait ce qui se passe, on sait comment on fonctionne, on connaît les limites, on sait qu'on n'aura jamais des batteries à plus de 50%, on sait qu'il y a plein de plafonds, le plafond électrochimique pour les batteries, d'autres plafonds pour l'énergie, les lois de Carnot simplement pour la gestion de l'énergie. À partir de là, ces innovations technologiques, si c'est rendre soi-disant une voiture autonome, hyper connectée, qui va me dire, quand je passe dans telle rue, ah ouais, il y a des sodas aux framboises, et comme j'ai programmé dans mon truc que j'aimais bien les sodas aux framboises, la voiture m'avertit qu'il y a un soda aux framboises, alors je peux aller m'arrêter pour boire un soda aux framboises. Bon voilà, l'innovation, là, on est là maintenant. On est dans l'inutile, le ridicule. Alors que dès qu'on parle d'innovation sociale, tout le monde pousse des cris d'orfraie en disant « Oh mais ça ne marchera jamais, on ne l'a jamais essayé, ça n'a pas marché, on a essayé avant mais ça n'a pas marché. » Alors que ce n'est pas vrai, l'innovation sociale est le nouveau champ de développement de l'homme. L'innovation économique est le nouveau champ. Par exemple, on parlait de capitalisme et bénéfices. La mutualisation des bénéfices est par exemple une innovation sociale qui serait intéressante à mettre en œuvre plutôt que la privatisation des bénéfices. Voilà. Mais on n'ose pas l'imaginer. Pourquoi ? Parce que ça va appauvrir les plus riches et ils ne seront pas contents. Non, non, il y a véritablement de l'innovation sociale et socio-économique à mettre en marche.
À ce stade-là, tu as toujours un con qui te dit « Oui, mais bon, mettre en commun, tout ça, ça ne marche pas. Regarde, l'URSS, ça n'a pas marché. Alors, tu vois, c'est pas la bonne voie. »
Oui, ben, ouais, l'URSS, ça n'a pas plus marché que ça. On sait très bien pourquoi ça n'a pas marché.
Parce qu'on a tout fait pour le saboter.
Peut-être que ça a voulu être mis en place trop rapidement sur une trop grande échelle. Moi, je pense que l'expérience communiste peut être retentée, mais dans d'autres conditions, tout simplement. Sur des niveaux plus petits, peut-être. Il y a d'autres expériences socialistes, anarchistes, qui peuvent être tentées. Mais pas forcément au niveau d'un État, au niveau des communes, au niveau de zones d'autonomie, et qui ne seraient pas temporaires, mais définitives. Voilà, mais pour moi, ce n'est pas l'innovation technologique qui va nous sauver, c'est l'innovation sociale et socio-économique.
Donc finalement, Val, on en revient à cette notion de changer les mentalités, sortir de la toxicomanie consommatrice, enfin en tout cas pour nous, hein, gens de ces tropiques qui pouvons encore consommer, pour ceux qui ont encore un pouvoir d'achat, et tout ça passe par un changement de mentalité, et donc par de l'éducation, et de l'éducation populaire. D'où le besoin de votre conférence.
Décoloniser les imaginaires pour pouvoir faire de l'innovation sociale et de l'innovation socio-économique. Mais il faut vraiment décoloniser les imaginaires.
Un élément tout à fait important de l'innovation sociale telle qu'elle est pratiquée au Rojava ou qu'elle est pratiquée au Chiapas, c'est le féminisme. La place des femmes est tout à fait égale à la place des hommes, même si ce n'est pas simple à mettre en place après des générations et des générations de patriarcat. C'est un des aspects énormes auxquels tiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup les révolutionnaires du Chiapas et du Rojava. Tout simplement parce qu'une femme est aussi capable de tout faire. Ce qu'un homme peut, une femme le peut, comme a dit l'autre. C'est tout à fait un régime d'inégalité, le régime patriarcal. Et dans la mesure où on s'efforce de mettre en place de la démocratie, évidemment, tout ce qui ressemble à de l'inégalité est à bannir et à combattre.
Et voilà les amis, rien n'est encore perdu. Et devant le danger, pour sortir du capitalocène,
pourquoi pas une prise de conscience globale de tous les êtres humains? Et pourquoi on neutraliserait pas la poignée de parasites qui nous assassinent pour du fric? Souvenez-vous de la formule, hein, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Merci à Val et Gilles, que vous retrouverez bientôt dans cette émission que vous pouvez réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com, un site biodégradable ne fonctionnant qu'avec des électrons verts et recyclés, et où on vous conseille également d'aller écouter notre série de reportages sur Notre-Dame-des-Landes. Il vous suffit de taper ZAD dans le moteur de recherche de polymixetlavoixoff.com. On se retrouve très vite pour reparler de tout ça. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM.
Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. Cette semaine, une émission spéciale Halloween enregistrée en public à la cafétéria Science de l'Université de Nantes. Et la question cette semaine, c'est: face à une attaque zombie ou à une épidémie virale,